Consuelo, livre 2, chapitre 70. Quand je vous le disais, s'écria M. Meyer, reprenant son propos où il l'avait laissé le matin. Y a-t-il un métier plus rude et plus fâcheux que celui que vous faites? Quand le soleil luit, tout semble beau, mais le soleil ne luit pas toujours, et votre destinée est aussi variable que l'atmosphère. Quelle destinée n'est pas variable et incertaine? Dit Consuelo. Quand le ciel est inclément, la Providence met des cœurs secourables sur notre route. Ce n'est donc pas en ce moment que nous sommes tentés de l'accuser.
Vous avez de l'esprit, mon petit ami, répondit Meyer. Vous êtes de ce beau pays où tout le monde en a.
Mais, croyez-moi, ni votre esprit, ni votre belle voix ne vous empêcheront de mourir de faim dans ces tristes provinces autrichiennes. À votre place, j'irai chercher fortune dans un pays riche et civilisé, sous la protection d'un grand prince.
Et lequel? Dit Consuelo, surprise de cette insinuation.
Ah, ma foi, je ne sais pas, il y en a plusieurs.
Mais la reine de Hongrie n'est-elle pas une grande princesse? Dit Hind. N'est-on pas aussi bien protégé dans ses états?
Et sans doute, répondit Meyer. Mais vous ne savez pas que Sa Majesté Marie-Thérèse déteste la musique, les vagabonds encore plus, et que vous serez chassé de Vienne si vous y paraissez dans les rues en troubadour, comme vous voilà.
En ce moment, Consuelo revit, à peu de distance, dans une profondeur de terrain sombre, au-dessous du chemin, les lumières qu'elle avait aperçues, et fit part de son observation à Joseph, qui, sur-le-champ, manifesta à M. Meyer le désir de descendre pour gagner ce gîte plus rapproché que la ville de Biberec.
« Cela ? » répondit M. Meyer. « Vous prenez cela pour des lumières ? Ce sont des lumières, en effet, mais elles n'éclairent d'autres gîtes que des marais dangereux, où bien des voyageurs se sont perdus et engloutis. Avez-vous vu jamais des feux follets ?»«
Beaucoup sur les lagunes de Venise, » dit Consuelo, « et souvent sur les petits lacs de la Bohême. »«
Eh bien, mes enfants, ces lumières que vous voyez ne sont pas autre chose. »
M. Meyer reparla longtemps encore à nos jeunes gens de la nécessité de se fixer, et du peu de ressources qu'ils trouveraient à Vienne, sans toutefois déterminer le lieu où ils les engageaient à se rendre. D'abord, Joseph fut frappé de son obstination et craignit qu'il n'eût découvert le sexe de sa compagne. Mais la bonne foi avec laquelle il lui parlait comme à un garçon, allant jusqu'à lui dire qu'elle ferait mieux d'embrasser l'état militaire quand elle serait en âge que de traîner la semelle à travers champs, le rassura sur ce point, et il se persuada que le bon Meyer était un de ces cerveaux faibles, à idées fixes, qui répètent un jour entier le premier propos qui leur est venu à l'esprit en s'éveillant. Consuelo, de son côté, le prit pour un maître d'école, ou pour un ministre protestant qui n'avait en tête qu'éducation, bonne mœurs et prosélytisme. Au bout d'une heure, ils arrivèrent à Biberec. Par une nuit si obscure qu'il ne distinguait absolument rien. La chaise s'arrêta dans une cour d'auberge, et aussitôt M. Meyer fut abordé par deux hommes qui le tirèrent à part pour lui parler. Lorsqu'ils entrèrent dans la cuisine, où Consuelo et Joseph étaient occupés à se sécher et à se réchauffer auprès du feu, Joseph reconnut dans ces deux personnages les mêmes qui s'étaient séparés de M. Meyer au passage de la Moldove, lorsque celui-ci l'avait traversé, les laissant sur la rive gauche. L'un des deux était borgne, et l'autre, quoiqu'il eût ses deux yeux, n'avait pas une figure plus agréable. Celui qui avait passé l'eau avec M. Meyer et que nos jeunes voyageurs avaient retrouvé dans la voiture, vint les rejoindre. Le quatrième ne parut pas. Ils parlèrent tous ensemble un langage inintelligible pour Consuelo elle-même, qui entendait tant de langues. M. Meyer paraissait exercer sur eux une sorte d'autorité et influencer tout au moins leurs décisions. Car, après un entretien assez animé à voix basse, sur les dernières paroles qu'il leur dit, ils se retirèrent, à l'exception de celui que Consuelo, en le désignant à Joseph, appelait le silencieux. C'était celui qui n'avait point quitté M. Meyer. Hind s'apprêtait à faire servir le souper frugal de sa compagne et le sien sur un bout de la table de cuisine, lorsque M. Meyer, revenant vers eux, les invita à partager son repas, et insista avec tant de bonhomie qu'ils n'osèrent le refuser. Il les emmena dans la salle à manger, où ils trouvèrent un véritable festin, du moins c'en était un pour deux pauvres enfants privés de toutes les douceurs de ce genre depuis 5 jours d'une marche assez pénible. Cependant, Consuelo n'y prit part qu'avec retenue. La bonne chère que faisait M. Meyer, l'empressement avec lequel les domestiques paraissaient le servir, et la quantité de vin qu'il absorbait, ainsi que son muet compagnon, la forçait à rabattre un peu de la haute opinion qu'elle avait prise des vertus presbytériennes de l'amphitryon. Elle était choquée surtout du désir qu'il montrait de faire boire Joseph et elle-même au-delà de leur soif, et de l'enjouement très vulgaire avec lequel il les empêchait de mettre de l'eau dans leur vin. Elle voyait avec plus d'inquiétude encore que, soit distraction, soit besoin réel de réparer ses forces, Joseph se laissait aller et commençait à devenir plus communicatif et plus animé qu'elle ne l'eût souhaité. Enfin, elle prit un peu d'humeur lorsqu'elle trouva son compagnon insensible au coup de coude qu'elle lui donnait pour arrêter ses fréquentes libations. Et lui retirant son verre au moment où M. Meyer allait le remplir de nouveau, « Non, monsieur, lui dit-elle, non, permettez-nous de ne pas vous imiter, cela ne nous convient pas. » « Vous êtes de drôles de musiciens !» s'écria Meyer en riant, avec son air de franchise et d'insouciance. « Des musiciens qui ne boivent pas ? Vous êtes les premiers de ce caractère que je rencontre. » « Et vous, monsieur, êtes-vous musicien ? » dit Joseph. « Je gage que vous l'êtes. Le diable m'emporte si vous n'êtes pas maître de chapelle de quelque principauté saxonne. »« Peut-être, répondit Meyer en souriant. « Et voilà pourquoi vous m'inspirez de la sympathie, mes enfants. »« Si monsieur est un maître, » reprit Consuelo, « il y a trop de distance entre son talent et celui des pauvres chanteurs des rues comme nous pour l'intéresser bien vivement. »« Il y a de pauvres chanteurs de rues qui ont plus de talent qu'on ne pense, » dit Meyer, « et il y a de très grands maîtres, voire des maîtres de chapelle des premiers souverains du monde, » qui ont commencé par chanter dans les rues. Si je vous disais que ce matin, entre 9 et 10 heures, j'ai entendu partir d'un coin de la montagne, sur la rive gauche de la Moldove, 2 voix charmantes qui disaient un joli duo italien, avec accompagnement de ritournelles agréables et même savantes sur le violon. Eh bien, cela m'est arrivé, tandis que je déjeunais sur un coteau avec mes amis. Et cependant, quand j'ai vu descendre de la colline les musiciens qui venaient de me charmer, j'ai été fort surpris de trouver en eux 2 pauvres enfants, l'un vêtu en petit paysan, l'autre bien gentil, bien simple, mais peu fortuné en apparence. Ne soyez donc ni honteux ni surpris de l'amitié que je vous témoigne, mes petits amis, et faites-moi celle de boire aux muses, nos communes et divines patronnes. « Monsieur, maestro !» s'écria Joseph tout joyeux et tout à fait gagné. « Je veux boire à la vôtre. Oh, vous êtes un véritable musicien, j'en suis certain, puisque vous avez été enthousiasmé du talent de... du signor Bertoni, mon camarade. »« Non, vous ne boirez pas davantage, » dit Consuelo impatienté en lui arrachant son verre. « Ni moi non plus, » ajouta-t-elle en retournant le sien. « Nous n'avons que nos voix pour vivre, monsieur le professeur, et le vin gâte la voix. Vous devez donc nous encourager à rester sobres au lieu de chercher à nous débaucher. »«
Eh bien, vous parlez raisonnablement, » dit Meyer en replaçant au milieu de la table la carafe qu'il avait mise derrière lui. « Oui, ménageons la voix, c'est bien dit. Vous avez plus de sagesse que votre âge ne comporte, ami Bertoni. » Et je suis bien aise d'avoir fait cette épreuve de vos bonnes mœurs. Vous irez loin, je le vois à votre prudence,
autant qu'à votre talent. Vous irez loin, et je veux avoir l'honneur et le mérite d'y contribuer. » Alors, le prétendu professeur, se mettant à l'aise et parlant avec un air de bonté et de loyauté extrême, leur offrit de les emmener avec lui à Dresde, où il leur procurerait les leçons du célèbre Haas et la protection spéciale de la reine de Pologne, princesse électorale de Saxe. Cette princesse, femme d'Auguste III, roi de Pologne, était précisément élève du Porpora. C'était une rivalité de faveur entre ce maître et le Sassone, auprès de la souveraine dilettante, qui avait été la première cause de leur profonde inimitié. Lors même que Consuelo eût été disposée à chercher fortune dans le nord de l'Allemagne, elle n'eût pas choisi pour son début cette cour, où elle se serait trouvée en lutte avec l'école et la coterie qui avaient triomphé de son maître. Elle en avait assez entendu parler à ce dernier dans ses heures d'amertume et de ressentiment pour être, en tout état de choses, fort peu tentée de suivre le conseil du professeur Meyer. Quant à Joseph, sa situation était fort différente. La tête montée par le souper, il se figurait avoir rencontré un puissant protecteur et le promoteur de sa fortune future. La pensée ne lui venait pas d'abandonner Consuelo pour suivre ce nouvel ami. Mais, un peu gris comme il l'était, il se livrait à l'espérance de le retrouver un jour. Il se fiait à sa bienveillance et l'en remerciait avec chaleur. Dans cet enivrement de joie, il prit son violon et en joua tout de travers. Monsieur Meyer ne l'en applaudit que davantage, soit qu'il ne voulut pas le chagriner en lui faisant remarquer ses fausses notes, soit, comme le pensa Consuelo, qu'il fut lui-même un très médiocre musicien. L'erreur où il était très réellement sur le sexe de cette dernière, quoiqu'il l'eût entendu chanter, achevait de lui démontrer qu'il ne pouvait pas être un professeur bien exercé d'oreille, puisqu'il s'en laissait imposer comme eût pu le faire un serpent de village ou un professeur de trompette. Cependant, M. Meyer insistait toujours pour qu'il se laissasse emmener à Dresde. Tout en refusant, Joseph écoutait ses offres d'un air ébloui, et faisait de telles promesses de s'y rendre le plus tôt possible que Consuelo se vit forcé de détromper M. Meyer sur la possibilité de cet arrangement. « Il n'y faut pas songer quant à présent, » dit-elle d'un ton très ferme. « Joseph, vous savez bien que cela ne se peut pas, et que vous-même avez d'autres projets. » Meyer renouvela ses offres séduisantes et fut surpris de la trouver inébranlable, ainsi que Joseph, à qui la raison revenait lorsque le signor Bertoni reprenait la parole. Sur ces entrefaites, le voyageur silencieux, qui n'avait fait qu'une courte apparition au souper, vint appeler M. Meyer, qui sortit avec lui. Consuelo profita de ce moment pour gronder Joseph de sa facilité à écouter les belles paroles du premier venu et les inspirations du bon vin. « Ai-je donc dit quelque chose de trop ?» dit Joseph effrayé. « Non, reprit-elle. Mais c'est déjà une imprudence que de faire société aussi longtemps avec des inconnus. À force de me regarder, on peut s'apercevoir, ou tout au moins se douter que je ne suis pas un garçon. J'ai eu beau frotter mes mains avec mon crayon pour les noircir et les tenir le plus possible sous la table, il eût été impossible qu'on ne remarquât point leur faiblesse, si heureusement ces deux messieurs n'avaient été absorbés, l'un par la bouteille et l'autre par son propre babil. Maintenant, le plus prudent serait de nous éclipser et d'aller dormir dans une autre auberge, car je ne suis pas tranquille avec ces nouvelles connaissances qui semblent vouloir s'attacher à nos pas. « Eh quoi ? » dit Joseph. « Nous en aller honteusement comme des ingrats, sans saluer et sans remercier cet honnête homme, cet illustre professeur peut-être ? Qui sait si ce n'est pas le grand As lui-même que nous venons d'entretenir ? Je vous réponds que non, et si vous aviez eu votre tête, vous auriez remarqué une foule de lieux communs misérables qu'il a dit sur la musique. Un maître ne parle point ainsi. C'est quelque musicien des derniers rangs de l'orchestre. Bonhomme, grand parleur, et passablement ivrogne. Je ne sais pourquoi je crois voir à sa figure qu'il n'a jamais soufflé que dans du cuivre. et à son regard de travers, on dirait qu'il a toujours un œil sur son chef d'orchestre.
« Corno ou clarino secondo !»
s'écria Joseph en éclatant de rire.
« Ce n'en est pas moins un convive agréable !»«
Et vous, vous ne l'êtes guère !»
répliqua Consuelo avec un peu d'humeur.
« Allons, dégrisez-vous et faisons nos adieux, mais partons !»«
La pluie tombe à torrent, écoutez comme elle bat les vitres !»«
J'espère que vous n'allez pas vous endormir sur cette table !»
dit Consuelo en le secouant pour l'éveiller. Monsieur Meyer rentra en cet instant.
« En voici bien d'une autre !» s'écria-t-il gaiement. « Je croyais pouvoir coucher ici et repartir demain pour Chambes. Mais voilà mes amis qui me font rebrousser chemin et qui prétendent que je leur suis nécessaire pour une affaire d'intérêt qu'ils ont à Passau. Il faut que je cède. Ma foi, mes enfants, si j'ai un conseil à vous donner, puisqu'il me faut renoncer au plaisir de vous emmener à Dresde, c'est de profiter de l'occasion. » J'ai toujours deux places à vous donner dans ma chaise, ces messieurs ayant la leur. Nous serons demain matin à Passau, qui n'est qu'à 6 000 d'ici. Là, je vous souhaiterai un bon voyage. Vous serez près de la frontière d'Autriche, et vous pourrez même descendre le Danube en bateau jusqu'à Vienne, à peu de frais et sans fatigue. »
Joseph trouva la proposition admirable pour reposer les pauvres pieds de Consuelo. L'occasion semblait bonne, en effet, et la navigation sur le Danube était une ressource à laquelle il n'avait point encore pensé. Consuelo accepta donc, voyant d'ailleurs que Joseph n'entendrait rien aux précautions à prendre pour la sécurité de leur gîte ce soir-là. Dans l'obscurité, retranchée au fond de la voiture, elle n'avait rien à craindre des observations de ses compagnons de voyage, et M. Meyer disait qu'on arriverait à Passau avant le jour. Joseph fut enchanté de sa détermination. Cependant, Consuelo éprouvait je ne sais quelle répugnance, et la tournure des amis de M. Meyer lui déplaisait de plus en plus. Elle lui demanda si eux aussi étaient musiciens.
« Tous plus ou moins, »
lui répondit-il laconiquement. Ils trouvèrent les voitures attelées, les conducteurs sur leurs banquettes et les valets d'auberge fort satisfaits des libéralités de M. Meyer, s'empressant autour de lui pour le servir jusqu'au dernier moment. Dans un intervalle de silence au milieu de cette agitation, Consuelo entendit un gémissement qui semblait partir du milieu de la cour. Elle se retourna vers Joseph, qui n'avait rien remarqué. Et ce gémissement s'étant répété une seconde fois, elle sentit un frisson courir dans ses veines. Cependant, personne ne parut s'apercevoir de rien, et elle put attribuer cette plainte à quelque chien ennuyé de sa chaîne. Mais quoi qu'elle fît pour s'en distraire, elle en reçut une impression sinistre. Ce cri, étouffé au milieu des ténèbres, du vent et de la pluie, parti d'un groupe de personnes animées ou indifférentes, sans qu'elle pût savoir précisément si c'était une voix humaine ou un bruit imaginaire, la frappa de terreur et de tristesse. Elle pensa tout de suite à Albert. Et comme si elle eût cru pouvoir participer à ces révélations mystérieuses dont il semblait doué, elle s'effraya de quelque danger suspendu sur la tête de son fiancé ou sur la sienne propre. Cependant, la voiture roulait déjà. Un nouveau cheval, plus robuste encore que le premier, la traînait avec vitesse. L'autre voiture, également rapide, marchait tantôt devant, tantôt derrière. Joseph babillait, à nouveau frais, avec M. Meyer, et Consuelo essayait de s'endormir, faisant semblant de dormir déjà pour autoriser son silence. La fatigue surmonta enfin la tristesse et l'inquiétude, et elle tomba dans un profond sommeil. Lorsqu'elle s'éveilla, Joseph dormait aussi, et M. Meyer était enfin silencieux. La pluie avait cessé, le ciel était pur, et le jour commençait à poindre. Le pays avait un aspect tout à fait inconnu pour Consuelo. Seulement, elle voyait de temps en temps paraître à l'horizon les cimes d'une chaîne de montagnes qui ressemblait au Böhmerwald. À mesure que la torpeur du sommeil se dissipait, Consuelo remarquait avec surprise la position de ces montagnes, qui eussent dû se trouver à sa gauche et qui se trouvaient à sa droite. Les étoiles avaient disparu, et le soleil, qu'elle s'attendait à voir lever devant elle, ne se montrait pas encore. Elle pensa que ce qu'elle voyait était une autre chaîne que celle du Baumerwald. Monsieur Meyer ronflait, et elle n'osait adresser la parole au conducteur de la voiture, seul personnage éveillé qui s'y trouvât en ce moment. Le cheval prit le pas pour monter une côte assez rapide, et le bruit des roues s'amortit dans le sable humide des ornières. Ce fut alors que Consuelo entendit très distinctement le même sanglot sourd et douloureux qu'elle avait entendu dans la cour de l'auberge à Biberec. Cette voix semblait partir de derrière elle. Elle se retourna machinalement et ne vit que le dossier de cuir contre lequel elle était appuyée. Elle crut être en proie à une hallucination. Et, ses pensées se reportant toujours sur Albert, elle se persuada avec angoisse qu'en cet instant même il était à l'agonie, et qu'elle recueillait, grâce à la puissance incompréhensible de l'amour que ressentait cet homme bizarre, le bruit lugubre et déchirant de ses derniers soupirs. Cette fantaisie s'empara tellement de son cerveau qu'elle se sentit défaillir, et, craignant de suffoquer tout à fait, elle demanda au conducteur, qui s'arrêtait pour faire souffler son cheval à mi-côte, la permission de monter le reste à pied. Il y consentit, et mettant pied à terre lui-même, il marcha auprès du cheval en sifflant. Cet homme était trop bien habillé pour être un voiturier de profession. Dans un mouvement qu'il fit, Consuelo crut voir qu'il avait des pistolets à sa ceinture. Cette précaution, dans un pays aussi désert que celui où il se trouvait, n'avait rien que de naturel. Et d'ailleurs, la forme de la voiture, que Consuelo examina en marchant à côté de la roue, annonçait qu'elle portait des marchandises. Elle était trop profonde pour qu'il n'y eût pas, derrière la banquette du fond, une double caisse, comme celle où l'on met les valeurs et les dépêches. Cependant, elle ne paraissait pas très chargée. Un seul cheval la traînait sans peine. Une observation qui frappa Consuelo bien davantage fut de voir son ombre s'allonger devant elle. Et, en se retournant, elle trouva le soleil tout à fait sorti de l'horizon, au point opposé où elle eût dû le voir, si la voiture eût marché dans la direction de Passau. « De quel côté allons-nous donc ? » demanda-t-elle au conducteur en se rapprochant de lui avec empressement. « Nous tournons le dos à l'Autriche. » « Oui, pour une demi-heure, » répondit-il avec beaucoup de tranquillité. « Nous revenons sur nos pas, parce que le pont de la rivière que nous avons à traverser est rompu, et qu'il nous faut faire un détour d'un demi-mille pour en retrouver un autre. » Consuelo, un peu tranquillisé, remonta dans la voiture, échangea quelques paroles indifférentes avec M. Meyer, qui s'était éveillé, et qui se rendormit bientôt. Joseph ne s'était pas dérangé un moment de son somme, et l'on arriva au sommet de la côte. Consuelo vit se dérouler devant elle un long chemin escarpé et sinueux, et la rivière dont lui avait parlé le conducteur se montra au fond d'une gorge. Mais aussi loin que l'œil pouvait s'étendre, on n'apercevait aucun pont, et l'on marchait toujours vers le nord. Consuelo, inquiète et surprise, ne put se rendormir. Une nouvelle montée se présenta bientôt. Le cheval semblait très fatigué. Les voyageurs descendirent tous, excepté Consuelo, qui souffrait toujours des pieds. C'est alors que le gémissement frappa de nouveau ses oreilles, mais si nettement et à tant de reprises différentes qu'elle ne put l'attribuer davantage à une illusion de ses sens. Le bruit partait sans aucun doute du double fond de la voiture. Elle l'examina avec soin et découvrit, dans le coin où s'était toujours tenu M. Meyer, une petite lucarne de cuir en forme de guichet qui communiquait avec ce double fond. Elle essaya de la pousser, mais elle n'y réussit pas. Il y avait une serrure, dont la clé était probablement dans la poche du prétendu professeur. Consuelo, ardente et courageuse dans ces sortes d'aventures, tira de son gousset un couteau à lame forte et bien coupante dont elle s'était munie en partant, peut-être par une inspiration de la pudeur et avec l'appréhension vague de danger auquel le suicide peut toujours soustraire une femme énergique. Elle profita d'un moment où tous les voyageurs étaient en avant sur le chemin, même le conducteur, qui n'avait plus rien à craindre de l'ardeur de son cheval. Et élargissant, d'une main prompte et assurée, la fente étroite que présentait la lucarne à son point de jonction avec le dossier, elle parvint à l'écarter assez pour y coller son œil et voir dans l'intérieur de cette case mystérieuse. Quelles furent sa surprise et son effroi lorsqu'elle distingua, dans cette logette étroite et sombre, qui ne recevait d'air et de jour que par une fente pratiquée en haut, un homme, d'une taille athlétique, bâillonné, couvert de sang, les mains et les pieds étroitement liés et garrottés, et le corps replié sur lui-même, dans un état de gêne et de souffrance horrible. Ce qu'on pouvait distinguer de son visage était d'une pâleur livide, et il paraissait en proie aux convulsions de l'agonie. Chapitre 71. Glacée d'horreur, Consuelo sauta à terre, et allant rejoindre Joseph, elle lui pressa le bras à la dérobée pour qu'il s'éloignât du groupe avec elle. Lorsqu'ils eurent une avance de quelques pas, « Nous sommes perdus si nous ne prenons la fuite à l'instant même !» lui dit-elle à voix basse. « Ces gens-ci sont des voleurs et des assassins, je viens d'en avoir la preuve. Doublons le pas et jetons-nous à travers champs, car ils ont leur raison pour nous tromper comme ils le font. » Joseph crut qu'un mauvais rêve avait troublé l'imagination de sa compagne. Il comprenait à peine ce qu'elle lui disait. Lui-même se sentait appesanti par une langueur inusitée, et les tiraillements d'estomac qu'il éprouvait lui faisaient croire que le vin qu'il avait bu la veille était frelaté par l'aubergiste et mêlé de méchantes drogues capiteuses. Il est certain qu'il n'avait pas fait une assez notable infraction à sa sobriété habituelle pour se sentir assoupi et abattu comme il l'était. « Cher signora, répondit-il, vous avez le cauchemar, et je crois l'avoir en vous écoutant. Quand même ces braves gens seraient des bandits, comme il vous plaît de l'imaginer. Quelle riche capture pourrait-il espérer en s'emparant de nous ?
Je l'ignore, mais j'ai peur. Et si vous aviez vu comme moi un homme assassiné dans cette même voiture où nous voyageons ? »
Joseph ne put s'empêcher de rire, car cette affirmation de Consuelo avait en effet l'air d'une vision.
Hé ! Ne voyez-vous donc pas tout au moins qu'il nous égare ?
Reprit-elle avec feu.
Qu'il nous conduise vers le nord, tandis que Passau et le Danube sont derrière nous. Regardez où est le soleil, et voyez dans quel désert nous marchons au lieu d'approcher d'une grande ville.
La justesse de ces observations frappa enfin Joseph, et commença à dissiper la sécurité, pour ainsi dire léthargique, où il était plongé.
« Eh bien, dit-il, avançons, et s'ils ont l'air de vouloir nous retenir malgré nous, nous verrons bien leurs intentions. « Et si nous ne pouvons leur échapper tout de suite ? Du sang-froid, Joseph, entendez-vous ? Il faudra jouer au plus fin et leur échapper dans un autre moment. »
Alors elle le tira par le bras, feignant de boiter plus encore que la souffrance ne l'y forçait, et gagnant du terrain néanmoins. Mais ils ne purent faire 10 pas de la sorte sans être rappelés par M. Meyer, d'abord d'un ton amical, bientôt avec un accent plus sévère, et enfin, comme il n'en tenait pas compte, par les jurements énergiques des autres. Joseph tourna la tête et vit avec terreur un pistolet braqué sur eux par le conducteur qui accourait à leur poursuite.
« Ils vont nous tuer !»
dit-il à Consuelo en ralentissant sa marche.
« Sommes-nous hors de portée ?»
lui dit-elle avec sang-froid, en l'entraînant toujours et en commençant à courir.
« Je ne sais !» répondit Joseph en tâchant de l'arrêter. « Croyez-moi, le moment n'est pas venu. Ils vont tirer sur vous.
« Arrêtez-vous, ou vous êtes mort !»
cria le conducteur qui courait plus vite qu'eux et les tenait à portée du pistolet, le bras étendu.
« C'est le moment de payer d'assurance !» dit Consuelo en s'arrêtant. « Joseph, faites et dites comme moi.
« Ah, ma foi !» dit-elle à haute voix en se retournant et en riant avec l'aplomb d'une bonne comédienne.
Si je n'avais pas trop de mal aux pieds pour courir davantage, je vous ferais bien voir que la plaisanterie ne prend pas. »
Et, regardant Joseph, qui était pâle comme la mort, elle affecta de rire aux éclats, en montrant cette figure bouleversée aux autres voyageurs qui s'étaient rapprochés d'eux.
« Il l'a cru !» s'écria-t-elle avec une gaieté parfaitement jouée. « Il l'a cru, mon pauvre camarade. Ah, Beppo, je ne te croyais pas si poltron. Eh, monsieur le professeur, voyez donc Beppo, qui s'est imaginé tout de bon que monsieur voulait lui envoyer une balle. »
Consuelo affectait de parler vénitien, tenant ainsi en respect par sa gaieté l'homme au pistolet qui n'y entendait rien. Monsieur Meyer affecta de rire aussi, puis, se tournant vers le conducteur,
« Quelle est donc cette mauvaise plaisanterie ?»
lui dit-il, non sans un clignement d'œil, que Consuelo observa très bien.
« Pourquoi effrayer ainsi ces pauvres enfants ?»«
Je voulais savoir s'ils avaient du cœur, » répondit l'autre en remettant ses pistolets dans son ceinturon.
« Hélas !» dit malignement Consuelo. « Monsieur aura maintenant une triste opinion de toi, mon ami Joseph. Quant à moi, je n'ai pas eu peur. Rendez-moi justice, monsieur Pistolet. »«
Vous êtes un brave, » répondit monsieur Meyer. « Vous feriez un joli tambour, et vous battriez la charge à la tête d'un régiment, sans sourciller au milieu de la mitraille. »«
Ah, cela je n'en sais rien, » répliqua-t-elle. « Peut-être aurais-je eu peur si j'avais cru que monsieur voulut nous tuer tout de bon. » Mais nous autres Vénitiens, nous connaissons tous les jeux, et on ne nous attrape pas comme cela.
C'est égal, la mystification est de mauvais goût, reprit monsieur Meyer. Et adressant la parole au conducteur, il parut le gronder un peu. Mais Consuelo n'en fut pas dupe, et vit bien, aux intonations de leur dialogue, qu'il s'agissait d'une explication, dont le résultat était qu'on croyait s'être mépris sur son intention de fuir. Consuelo étant remontée dans la voiture avec les autres.
« Convenez, » dit-elle en riant à M. Meyer, « que votre conducteur à pistolet est un drôle de corps. Je vais l'appeler à présent Signor Pistola. »
« Eh bien pourtant, monsieur le professeur, convenez que ce n'était pas bien neuf, ce jeu-là. »«
C'est une gentillesse allemande, » dit M. Meyer.
« On n'a plus d'esprit que cela à Venise, n'est-ce pas ?»
« Oh, savez-vous ce que des Italiens eussent fait à votre place pour nous jouer un bon tour? Ils auraient fait entrer la voiture dans le premier buisson venu de la route, et ils se seraient tous cachés. Alors, quand nous nous serions retournés, ne voyant plus rien et croyant que le diable avait tout emporté, qui eût été bien attrapé?
Moi, surtout qui ne peux plus me traîner. Et Joseph aussi, qui est poltron comme une vache du Böhmerwald. » et qui se serait cru abandonné dans ce désert.
Monsieur Meyer riait de ces facéties enfantines qu'il traduisait à mesure au signor Pistola, non moins égayé que lui de la simplicité du gondolier.
« Oh, vous êtes par trop madré, » répondait Meyer. « On ne se frottera plus à vous faire des niches. »
Et Consuelo, qui voyait l'ironie profonde de ce faux bonhomme percer enfin sous son air jovial et paternel, continuait de son côté à jouer ce rôle du niais qui se croit malin, accessoire connu de tout mélodrame. Il est certain que leur aventure en était un assez sérieux, et tout en faisant sa partie avec habileté, Consuelo sentait qu'elle avait la fièvre. Heureusement, c'est dans la fièvre qu'on agit, et dans la stupeur qu'on succombe. Elle se montra dès lors aussi gaie qu'elle avait été réservée jusque-là. Et Joseph, qui avait repris toutes ses facultés, la seconda fort bien. Tout en paraissant ne pas douter qu'ils approchassent de Passau, ils finirent d'ouvrir l'oreille aux propositions d'aller à Dresde, sur lesquelles M. Meyer ne manqua pas de revenir. Par ce moyen, ils gagnèrent toute sa confiance, et le mirent à même de trouver quelque expédient pour leur avouer honnêtement qu'il les y menait sans leur permission. L'expédient fut bientôt trouvé. M. Meyer n'était pas novice dans ces sortes d'enlèvements. Il y eut un dialogue animé en langue étrangère entre ces trois individus, M. Meyer, le signor Pistola et le silencieux. Et puis tout à coup, ils se mirent à parler allemand, et comme s'ils continuaient le même sujet.
« Je vous le disais bien,
s'écria M. Meyer. « Nous avons fait fausse route, à preuve que leur voiture ne reparaît pas. Il y a plus de 2 heures que nous les avons laissées derrière nous, et j'ai eu beau regarder à la montée, et je n'ai rien aperçu. »
« Je ne la vois pas du tout, »
dit le conducteur en sortant la tête de la voiture et en la rentrant d'un air découragé. Consuelo avait fort bien remarqué, dès la première montée, la disparition de cette autre voiture avec laquelle on était parti de Biberec.
« J'étais bien sûr que nous étions égarés, » observa Joseph, « mais je ne voulais pas le dire. »«
Et pourquoi diable ne le disiez-vous pas ?»
reprit le silencieux, affectant un grand déplaisir de cette découverte.
« C'est que cela m'amusait !»
dit Joseph, inspiré par l'innocent machiavélisme de Consuelo.
« C'est drôle de se perdre en voiture. Je croyais que cela n'arrivait qu'aux piétons. »«
Ah bien, voilà qui m'amuse aussi !» dit Consuelo. « Je voudrais à présent que nous fussions sur la route de Dredd. »
« Si je savais où nous sommes, » repartit M. Meyer, « je me réjouirais avec vous, mes enfants, car je vous avoue que j'étais assez mécontent d'aller à Passau pour le bon plaisir de messieurs mes amis, et je voudrais que nous nous fussions assez détournés pour avoir un prétexte de borner là notre complaisance envers eux. »«
Ma foi, monsieur le professeur, » dit Joseph, « il en sera ce qu'il vous plaira, ce sont vos affaires. Si nous ne vous gênons pas, et si vous voulez toujours de nous pour aller à Dredd, nous voilà tout prêts à vous suivre, fût-ce au bout du monde. Et toi, Bertoni, qu'en dis-tu ? »
« J'en dis autant, » répondit Consuelo. « Vogue la galère. »
« Vous êtes de braves enfants, » répondit Meyer en cachant sa joie sous son air de préoccupation.
« Mais je voudrais bien savoir pourtant où nous sommes. »
« Où que nous soyons, il faut nous arrêter, » dit le conducteur. « Le cheval n'en peut plus. » Il n'a rien mangé depuis hier soir, et il a marché toute la nuit. Nous ne serons fâchés, ni les uns ni les autres, de nous restaurer aussi. Voici un petit bois. Nous avons encore quelques provisions. Halte !»
On entra dans le bois. Le cheval fut dételé. Joseph et Consuelo offrirent leurs services avec empressement. On les accepta sans méfiance. On pencha la chaise sur ses brancards, et dans ce mouvement, la position du prisonnier invisible devenant sans doute plus douloureuse, Consuelo l'entendit encore gémir. Meyer l'entendit aussi, et regarda fixement Consuelo pour voir si elle s'en était aperçue. Mais, malgré la pitié qui déchirait son cœur, elle sut paraître sourde et impassible. Meyer fit le tour de la voiture. Consuelo, qui s'était éloigné, le vit ouvrir à l'extérieur une petite porte de derrière, jeter un coup d'œil dans l'intérieur de la double caisse, la refermer et remettre la clé dans sa poche.
« La marchandise est-elle avariée ? » cria le silencieux à M. Meyer.
« Tout est bien, »
répondit-il avec une indifférence brutale, et il fit tout disposer pour le déjeuner.
« Maintenant, »
dit Consuelo rapidement à Joseph en passant auprès de lui.
« Fais comme moi, et suis tous mes pas. »
Elle aida à étendre les provisions sur l'herbe et à déboucher les bouteilles. Joseph l'imita en affectant beaucoup de gaieté. M. Meyer vit avec plaisir ses serviteurs volontaires se dévouer à son bien-être. Il aimait ses aises et se mit à boire et à manger, ainsi que ses compagnons, avec des manières plus gloutonnes et plus grossières qu'il n'en avait montré la veille. Il tendait à chaque instant son verre à ses 2 nouveaux pages, qui à chaque instant se levaient, se rasseyaient et repartaient pour courir de côté et d'autre, épiant le moment de courir une fois pour toutes, mais attendant que le vin et la digestion rendissent moins clairvoyants ces gardiens dangereux. Enfin, M. Meyer, se laissant aller sur l'herbe et déboutonnant sa veste, offrit au soleil sa grosse poitrine ornée de pistolets. Le conducteur alla voir si le cheval mangeait bien, et le silencieux se mit à chercher dans quelque endroit du ruisseau vaseux au bord duquel on s'était arrêté, cet animal pourrait boire. Ce fut le signal de la délivrance. Consuelo feignit de chercher aussi, Joseph s'engagea avec elle dans les buissons. Et dès qu'ils se virent cachés dans l'épaisseur du feuillage, ils prirent leur course comme 2 lièvres à travers bois.
Il n'avait plus guère à craindre les balles dans ce taillis épais, et quand ils s'entendirent rappeler, ils jugèrent qu'ils avaient pris assez d'avance pour continuer sans danger.
« Il vaut pourtant mieux répondre, » dit Consuelo en s'arrêtant. « Cela détournera les soupçons et nous donnera le temps d'un nouveau trait de course. »
Joseph répondit donc.
« Par ici ! Par ici ! Il y a de l'eau !»«
Une source ! Une source !»
cria Consuelo. Et courant aussitôt à angle droit, afin de dérouter l'ennemi, ils repartirent légèrement. Consuelo ne pensait plus à ses pieds malades et enflés. Joseph avait triomphé du narcotique que M. Meyer lui avait versé la veille. La peur leur donnait des ailes. Ils couraient ainsi depuis 10 minutes dans la direction opposée à celle qu'ils avaient prise d'abord, et ne se donnant pas le temps d'écouter les voix qui les appelaient de deux côtés différents, lorsqu'ils trouvèrent la lisière du bois, et devant eux un coteau rapide bien gazonné qui s'abaissait jusqu'à une route battue, et des bruyères semées de massifs d'arbres.
« Ne sortons pas du bois, » dit Joseph. « Ils vont venir ici, et de cet endroit élevé, ils nous verront dans quelque sens que nous marchions. »
Consuelo hésita un instant, explora le pays d'un coup d'œil rapide, et lui dit
« Le bois est trop petit pour nous cacher longtemps. Devant nous, il y a une route, et l'espérance d'y rencontrer quelqu'un. »«
Hé ! » s'écria Joseph. « C'est la même route que nous suivions tout à l'heure. Voyez, elle fait le tour de la colline et remonte sur la droite vers le lieu d'où nous sommes partis. Que l'un des trois monte à cheval et il nous rattrapera avant que nous ayons gagné le bas du terrain. »«
C'est ce qu'il faut voir, » dit Consuelo. « On court vite en descendant. Je vois quelque chose là-bas sur le chemin, quelque chose qui monte de ce côté. Il ne s'agit que de l'atteindre avant d'être atteint nous-mêmes. Allons !»
Il n'y avait pas de temps à perdre en délibération. Joseph se fia aux inspirations de Consuelo. La colline fut descendue par eux en un instant, et ils avaient gagné les premiers massifs lorsqu'ils entendirent les voix de leurs ennemis à la lisière du bois. Cette fois, ils se gardèrent de répondre et coururent encore, à la faveur des arbres et des buissons, jusqu'à ce qu'ils rencontrèrent un ruisseau encaissé, que ces mêmes arbres leur avaient caché. Une longue planche servait de pont. Ils traversèrent et jetèrent ensuite la planche au fond de l'eau. Arrivés à l'autre rive, ils la descendirent, toujours protégés par une épaisse végétation. Et ne s'entendant plus appeler, ils jugèrent qu'on avait perdu leurs traces, ou bien qu'on ne se méprenait plus sur leurs intentions et qu'on cherchait à les atteindre par surprise. Mais bientôt la végétation du rivage fut interrompue, et ils s'arrêtèrent, craignant d'être vus. Joseph avança la tête avec précaution parmi les dernières broussailles et vit un des brigands en observation à la sortie du bois, et l'autre, vraisemblablement le signor Pistola, dont ils avaient déjà éprouvé la supériorité à la course, au bas de la colline, non loin de la rivière. Tandis que Joseph s'assurait de la position de l'ennemi, Consuelo s'était dirigée du côté de la route, et tout à coup elle revint vers Joseph.
« C'est une voiture qui vient !» lui dit-elle. « Nous sommes sauvés. Il faut la joindre avant que celui qui nous poursuit se soit avisé de passer l'eau. »
Ils coururent dans la direction de la route, en droite ligne, malgré la nudité du terrain. La voiture venait à eux au galop.
« Oh, mon Dieu !» dit Joseph. « Si c'était l'autre voiture, celle des complices !»«
Non !» répondit Consuelo.
« C'est une berline à 6 chevaux, 2 postillons et 2 courriers. Nous sommes sauvés, te dis-je. Encore un peu de courage. »
Il était bien temps d'arriver au chemin. Le Pistola avait retrouvé l'empreinte de leurs pieds sur le sable au bord du ruisseau. Il avait la force et la rapidité d'un sanglier. Il vit bientôt dans quel endroit la trace disparaissait et les pieux qui avaient assujetti la planche. Il devina la ruse, franchit l'eau à la nage, retrouva la marque des pas sur la rive, et, les suivant toujours, il venait de sortir des buissons. Il voyait les deux fugitifs traverser la bruyère, mais il vit aussi la voiture, il comprit leur dessein, et ne pouvant plus s'y opposer, il rentra dans les broussailles et s'y tint sur ses gardes. Au cri des deux jeunes gens, qui d'abord furent pris pour des mendiants, la berline ne s'arrêta pas. Les voyageurs jetèrent quelques pièces de monnaie.
et leur courrier d'escorte, voyant que nos fugitifs, au lieu de les ramasser, continuaient à courir en criant à la portière, marchèrent sur eux au galop pour débarrasser leur maître de cette importunité. Consuelo, essoufflé et perdant ses forces, comme il arrive presque toujours au moment du succès, ne pouvait faire sortir un son de son gosier et joignait les mains d'un air suppliant en poursuivant les cavaliers, tandis que Joseph, cramponné à la portière, au risque de manquer prise et de se faire écraser, criait d'une voix haletante « Au secours! Au secours! Nous sommes poursuivis! Au voleur! À l'assassin !» Un des deux voyageurs qui occupait la berline parvint enfin à comprendre ces paroles entrecoupées et fit signe à un des courriers qui arrêta les postillons. Consuelo, lâchant alors la bride de l'autre courrier à laquelle elle s'était suspendue, quoique le cheval se cabrât et que le cavalier la menaçât de son fouet, vint se joindre à Joseph, et sa figure animée par la course frappa les voyageurs qui entrèrent en pourparlers. « Qu'est-ce que cela signifie ? Dit l'un des deux. « Est-ce une nouvelle manière de demander l'aumône ? On vous a donné, que voulez-vous encore ? Ne pouvez-vous répondre ?» Consuelo était comme prête à expirer. Joseph, hors d'haleine, ne pouvait que dire « Sauvez-nous ! Sauvez-nous !» Et il montrait le bois et la colline sans réussir à retrouver la parole. « Ils ont l'air de deux renards forcés à la chasse, » dit l'autre voyageur. « Attendons que la voix leur revienne. » Et les deux seigneurs, magnifiquement équipés, les regardèrent en souriant d'un air de sang-froid qui contrastait avec l'agitation des pauvres fugitifs. Enfin, Joseph réussit à articuler encore les mots de « voleur » et « d'assassin ». Aussitôt, les nobles voyageurs se firent ouvrir la porte et, s'avançant sur le marchepied, regardèrent de tous côtés, étonnés de ne rien voir qui pût motiver une pareille alerte. Les brigands s'étaient cachés, et la campagne était déserte et silencieuse. Enfin, Consuelo, revenant à elle, leur parla ainsi, en s'arrêtant à chaque phrase pour respirer. « Nous sommes deux pauvres musiciens ambulants. Nous avons été enlevés par des hommes que nous ne connaissons pas, et qui, sous prétexte de nous rendre service, nous ont fait monter dans leur voiture et voyager toute la nuit. » Au point du jour, nous nous sommes aperçus qu'on nous trompait et qu'on nous menait vers le nord au lieu de suivre la route de Vienne. Nous avons voulu fuir, ils nous ont menacés, le pistolet à la main. Enfin, ils se sont arrêtés dans les bois que voici. Nous nous sommes échappés et nous avons couru vers votre voiture. Si vous nous abandonnez ici, nous sommes perdus. Ils sont à deux pas de la route, l'un dans les buissons, les autres dans le bois. Combien sont-ils donc ? Demanda un des courriers. Mon ami, dit en français un des voyageurs auquel Consuelo s'était adressé parce qu'il était plus près d'elle sur le marchepied. Apprenez que cela ne vous regarde pas. Combien sont-ils? Voilà une belle question. Votre devoir est de vous battre si je vous l'ordonne, et je ne vous charge point de compter les ennemis. Vraiment? Voulez-vous vous amuser à pourfendre? Reprit en français l'autre seigneur. Songez, baron, que cela prend du temps. Ce ne sera pas long, et cela nous dégourdira. Voulez-vous être de la partie, comte? Soit, si cela vous amuse. Et le comte prit avec une majestueuse indolence son épée dans une main, et dans l'autre deux pistolets, dont la crosse était ornée de pierreries. Oh, vous faites bien, messieurs, s'écria Consuelo, à qui l'impétuosité de son cœur fit oublier un instant son humble rôle, et qui pressa de ses deux mains le bras du comte. Le comte, surpris d'une telle familiarité de la part d'un petit drôle de cette espèce, regarda sa manche d'un air de dégoût railleur, la secoua, et releva ses yeux avec une lenteur méprisante sur Consuelo, qui ne put s'empêcher de sourire, en se rappelant avec quelle ardeur le comte Giustiniani et tant d'autres illustrissimes vénitiens lui avaient demandé, en d'autres temps, la faveur de baiser une de ses mains, dont l'insolence paraissait maintenant si choquante. Soit qu'il y eût en elle, en cet instant, un rayonnement de fierté calme et douce qui démentait les apparences de sa misère, soit que sa facilité à parler la langue du bon ton en Allemagne fit penser qu'elle était un jeune gentilhomme travesti, Soit enfin que le charme de son sexe se fit instinctivement sentir, le comte changea de physionomie tout à coup, et, au lieu d'un sourire de mépris, lui adressa un sourire de bienveillance. Le comte était encore jeune et beau. On eût pu être ébloui des avantages de sa personne, si le baron ne l'eût surpassé en jeunesse, en régularité de traits et en luxe de stature. C'étaient les deux plus beaux hommes de leur temps, comme on le disait d'eux, et probablement de beaucoup d'autres. Consuelo, voyant les regards expressifs du jeune baron s'attacher aussi sur elle avec une expression d'incertitude, de surprise et d'intérêt, détourna leur attention de sa personne en leur disant « Allez, messieurs, ou plutôt, venez, nous vous servirons de guide. Ces bandits ont dans leur voiture un malheureux caché dans un compartiment de la caisse, enfermé comme dans un cachot. Il est là, pieds et poings liés, mourant, ensanglanté et un bâillon dans la bouche. Allez le délivrer, cela convient à de nobles cœurs comme les vôtres. »
« Vive Dieu, cet enfant est fort gentil !» s'écria le baron. « Et je vois, cher comte, que nous n'avons pas perdu notre temps à l'écouter. C'est peut-être un brave gentilhomme que nous allons tirer des mains de ces bandits. »«
Vous dites qu'ils sont là ?» reprit le comte en montrant le bois.
« Oui, dit Joseph, mais ils sont dispersés, et si vos seigneuries veulent bien écouter mon humble avis, elles diviseront l'attaque. » Elles monteront la côte dans leur voiture, aussi vite que possible, et après avoir tourné la colline, elles trouveront à la hauteur du bois que voici, et tout à l'entrée, sur la lisière opposée, la voiture où est le prisonnier, tandis que je conduirai, messieurs les cavaliers, directement par la traverse. Les bandits ne sont que trois. Ils sont bien armés, mais se voyant pris des deux côtés à la fois, ils ne feront pas de résistance.
« La vie est bon, » dit le baron.
« Comte, restez dans la voiture et faites-vous accompagner de votre domestique. Je prends son cheval. Un de ses enfants vous servira de guide pour savoir en quel lieu il faut vous arrêter. Moi, j'emmène celui-ci avec mon chasseur. Hâtons-nous, car si nos brigands ont l'éveil, comme il est probable, ils prendront les devants.
« La voiture ne peut vous échapper, » observa Consuelo. « Leur cheval est sur les dents. »
Le baron sauta sur celui du domestique du comte, et ce domestique monta derrière la voiture.
« Passez !» dit le comte à Consuelo en la faisant entrer la première, sans se rendre compte à lui-même de ce mouvement de déférence. Il s'assit pourtant dans le fond, et elle resta sur le devant. Penché à la portière pendant que les postillons prenaient le grand galop, il suivait de l'œil son compagnon qui traversait le ruisseau à cheval, suivi de son homme d'escorte, lequel avait pris Joseph en croupe pour passer l'eau. Consuelo n'était pas sans inquiétude pour son pauvre camarade, exposé au premier feu. Mais elle le voyait avec estime et approbation courir avec ardeur à ce poste périlleux. Elle le vit remonter la colline, suivi des cavaliers qui éperonnaient vigoureusement leurs montures, puis disparaître sous le bois. Deux coups de feu se firent entendre. Puis un troisième. La berline tournait le monticule. Consuelo, ne pouvant rien savoir, éleva son âme à Dieu. Et le comte, agité d'une sollicitude analogue pour son noble compagnon, cria en jurant au postillon « Mais forcez donc le galop, canaille ! Ventre à terre !»
Chapitre 72. Le seigneur Pistola, auquel nous ne pouvons donner d'autre nom que celui dont Consuelo l'avait gratifié, car nous ne l'avons pas trouvé assez intéressant de sa personne pour faire des recherches à cet égard, avait vu, du lieu où il était caché, la berline s'arrêter au cri des fugitifs. L'autre anonyme, que nous appelons aussi comme Consuelo, le silencieux, avait fait, du haut de la colline, la même observation et la même réflexion. Il avait couru rejoindre Meyer, et tous deux songeaient au moyen de se sauver. Avant que le baron eût traversé le ruisseau, Pistola avait gagné du chemin et s'était déjà tapi dans le bois.
Il les laissa passer et leur tira par derrière deux coups de pistolet, dont l'un perça le chapeau du baron et l'autre blessa le cheval du domestique assez légèrement. Le baron tourna bride, l'aperçut et, courant sur lui, l'étendit par terre d'un coup de pistolet. Puis il le laissa se rouler dans les épines en jurant et suivit Joseph, qui arriva à la voiture de M. Meyer presque en même temps que celle du comte. Ce dernier avait déjà sauté à terre. Meyer et le silencieux avaient disparu avec le cheval sans perdre le temps à cacher la chaise. Le premier soin des vainqueurs fut de forcer la serrure de la caisse où était renfermé le prisonnier. Consuelo aida avec transport à couper les cordes et le bâillon de ce malheureux, qui ne se vit pas plus tôt délivré qu'il se jeta à terre, prosterné devant ses libérateurs et remerciant Dieu. Mais dès qu'il eut regardé le baron, il se crut retombé de Charybancilla. « Ah, monsieur le baron de Trinques, s'écria-t-il, ne me perdez pas, ne me livrez pas. Grâce, grâce pour un pauvre déserteur, père de famille. Je ne suis pas plus prussien que vous, monsieur le baron. Je suis sujet autrichien comme vous, et je vous supplie de ne pas me faire arrêter. Oh, faites-moi grâce. » Faites-lui grâce, monsieur le baron de Trinques, s'écria Consuelo sans savoir à qui elle parlait ni de quoi il s'agissait.
Je te fais grâce, répondit le baron, mais à condition que tu vas t'engager par les plus épouvantables serments à ne jamais dire de qui tu tiens la vie et la liberté.
Et en parlant ainsi, le baron, tirant un mouchoir de sa poche, s'enveloppa soigneusement la figure, dont il ne laissa passer qu'un œil.
« Êtes-vous blessé ? » dit le comte.
« Non, répondit-il en rabattant son chapeau sur son visage. Mais si nous rencontrons ces prétendus brigands, je ne me soucie pas d'être reconnu. Je ne suis déjà pas très bien dans les papiers de mon gracieux souverain. Il ne me manquerait plus que cela. »
« Je comprends ce dont il s'agit, reprit le comte. Mais soyez sans crainte, je prends tout sur moi. »
Cela peut sauver ce déserteur des verges et de la potence, mais non pas moi d'une disgrâce.
N'importe, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il faut obliger ses semblables à tout risque. Voyons, malheureux, peux-tu tenir sur tes jambes?
Pas trop, à ce que je vois. Tu es blessé?
J'ai reçu beaucoup de coups, il est vrai, mais je ne les sens plus.
Enfin, peux-tu déguerpir?
Oh oui, monsieur l'aide-de-camp.
« Ne m'appelle pas ainsi, drôle. Tais-toi. Va-t'en. Et nous, cher comte, faisons de même. Il me tarde d'avoir quitté ce bois. J'ai abattu un des recruteurs. Si le roi le savait, mon affaire serait bonne.
Quoiqu'après tout, je m'en moque, »
ajouta-t-il en levant les épaules. « Hélas, » dit Consuelo, tandis que Joseph passait sa gourde au déserteur. « Si on l'abandonne ici, il sera bientôt repris. Il a les pieds enflés par les cordes et peut à peine se servir de ses mains. Voyez comme il est pâle et défait. »
Nous ne l'abandonnerons pas, dit le comte qui avait les yeux attachés sur Consuelo.
Franz, descendez de cheval, dit-il à son domestique. Et s'adressant au déserteur, monte sur cette bête, je te la donne. Et ceci encore, ajouta-t-il en lui jetant sa bourse. As-tu la force de gagner l'Autriche?
« Oui, oui, monseigneur. »«
Veux-tu aller à Vienne ? » ?»«
Oui, monseigneur. »«
Veux-tu reprendre du service ? » ?»«
Oui, monseigneur, pourvu que ce ne soit pas en Prusse. »«
Va t'en trouver Sa Majesté l'impératrice reine. Elle reçoit tout le monde un jour par semaine. Dis-lui que c'est le comte Auditz qui lui fait présent d'un très beau grenadier parfaitement dressé à la prussienne. »«
J'y cours, monseigneur. »
Et n'aie jamais le malheur de nommer monsieur le baron, ou je te fais prendre par mes gens et je te renvoie en Prusse.
J'aimerais mieux mourir tout de suite. Oh, si les misérables m'avaient laissé l'usage des mains, je me serais tué quand ils m'ont repris.
Décampe !
Oui, monseigneur.
Il acheva d'avaler le contenu de la gourde, la rendit à Joseph, l'embrassa, sans savoir qu'il lui devait un service bien plus important, se prosterna devant le comte et le baron, et sur un geste d'impatience de celui-ci, qui lui coupa la parole, il fit un grand signe de croix, baisa la terre et monta à cheval avec l'aide des domestiques, car il ne pouvait remuer les pieds.
mais à peine fut-il en selle que, reprenant courage et vigueur, il piqua des deux et se mit à courir, bride abattue, sur la route du midi.
« Voilà qui achèvera de me perdre si on découvre jamais que je vous ai laissé faire, »
dit le baron au comte.
« C'est égal, » ajouta-t-il avec un grand éclat de rire. « L'idée de faire cadeau à Marie-Thérèse d'un grenadier de Frédéric est la plus charmante du monde. Ce drôle, qui a envoyé des balles aux houlans de l'impératrice, va en envoyer au cadet du roi de Prusse. Voilà des sujets bien fidèles et des troupes bien choisies. »
Les souverains n'en sont pas plus mal servis.
Ah ça, qu'allons-nous faire de ces enfants?
Nous pouvons dire comme le grenadier, répondit Consuelo, que si vous nous abandonnez ici, nous sommes perdus.
Je ne crois pas, répondit le comte, qui mettait dans toutes ses paroles une sorte d'ostentation chevaleresque, que nous vous ayons donné lieu jusqu'ici de mettre en doute nos sentiments d'humanité. Nous allons vous emmener jusqu'à ce que vous soyez assez loin d'ici pour ne plus rien craindre. Mon domestique, que j'ai mis à pied, montera sur le siège de la voiture, dit-il en s'adressant au baron. Et il ajouta d'un ton plus bas, ne préférez-vous pas la société de ces enfants à celle d'un valet qu'il nous faudrait admettre dans la voiture et devant lequel nous serions obligés de nous contraindre davantage?
Eh, sans doute, répondit le baron. Des artistes, quelque pauvres qu'ils soient, ne sont déplacés nulle part. Qui sait si celui qui vient de retrouver son violon dans ses broussailles et qu'il remporte avec tant de joie n'est pas un tartini en herbe. Allons, troubadour, dit-il à Joseph qui venait effectivement de ressaisir son sac, son instrument et ses manuscrits sur le champ de bataille. Venez avec nous, et à notre premier gîte, vous nous chanterez ce glorieux combat où nous n'avons trouvé personne à qui parler.
Vous pouvez vous moquer de moi à votre aise, dit le comte lorsqu'ils furent installés dans le fond de la voiture, et les jeunes gens vis-à-vis d'eux. La berline roulait déjà rapidement vers l'Autriche. Vous qui avez abattu une pièce de ce gibier de potence.
J'ai bien peur de ne l'avoir pas tué sur le coup, et de le retrouver quelque jour à la porte du cabinet de Frédéric. Je vous céderai donc cet exploit de grand cœur.
« Moi qui n'ai même pas vu l'ennemi, reprit le comte, je vous l'envie sincèrement, votre exploit. Je prenais goût à l'aventure, et j'aurais eu du plaisir à châtier ces drôles comme ils le méritent. Venir saisir des déserteurs et... Venir saisir des déserteurs et lever des recrues jusque sur le territoire de la Bavière, aujourd'hui l'allié fidèle de Marie-Thérèse... C'est d'une insolence qui n'a pas de nom.
Ce serait un prétexte de guerre tout trouvé si on était là de se battre, et si le temps n'était à la paix pour le moment.
Vous m'obligerez donc, monsieur le comte, en n'ébruitant pas cette aventure, non seulement à cause de mon souverain, qui me saurait fort mauvais gré du rôle que j'y ai joué, mais encore à cause de la mission dont je suis chargé auprès de votre impératrice. Je la trouverais fort mal disposée à me recevoir si je l'abordais sous le coup d'une pareille impertinence de la part de mon gouvernement.
« Ne craignez rien de moi, répondit le comte. Vous savez que je ne suis pas un sujet zélé, parce que je ne suis pas un courtisan ambitieux.
Et quelle ambition pourriez-vous avoir encore, cher comte? L'amour et la fortune ont couronné vos vœux. Au lieu que moi... Combien nos destinées sont dissemblables jusqu'à présent, malgré l'analogie qu'elles présentent au premier abord. »
En parlant ainsi, le baron tira de son sein un portrait entouré de diamants et se mit à le contempler avec des yeux attendris et en poussant de profonds soupirs qui donnèrent un peu envie de rire à Consuelo. Elle trouva qu'une passion si peu discrète n'était pas de bon goût et railla intérieurement cette manière de grand seigneur.
« Cher baron, reprit le comte en baissant la voix.
Consuelo feignait de ne pas entendre et y faisait même son possible. Je vous supplie de n'accorder à personne la confiance dont vous m'avez honoré, et surtout de ne montrer ce portrait à nul autre qu'à moi. Remettez-le dans sa boîte, et songez que cet enfant entend le français aussi bien que vous et moi.
À propos,
s'écria le baron en refermant le portrait sur lequel Consuelo s'était bien gardé de jeter les yeux. « Que diable voulait-il faire de ces deux petits garçons, nos racoleurs ? Dites, que vous proposait-il pour vous engager à les suivre ?»«
En effet, dit le comte, je n'y songeais pas, et maintenant je ne m'explique pas leur fantaisie. Eux qui ne cherchent à enrôler que des hommes dans la force de l'âge et d'une stature démesurée, que pouvaient-ils faire de deux petits enfants ?»
Joseph raconta que le prétendu Meyer s'était donné pour musicien et leur avait continuellement parlé de Dredd et d'un engagement à la chapelle de l'électeur.
« Ah, m'y voilà !» reprit le baron. « Et ce Meyer, je gage que je le connais. Ce doit être un nommé N, ex-chef de musique militaire, aujourd'hui recruteur pour la musique des régiments prussiens. Nos indigènes ont la tête si dure qu'ils ne réussiraient pas à jouer juste et en mesure, si sa majesté, qui a l'oreille plus délicate que feu le roi son père, ne tirait de la Bohême et de la Hongrie ses clairons, ses fifres et ses trompettes. Le bon professeur de Tintamarre a cru faire un joli cadeau à son maître en lui amenant, outre le déserteur repêché sur vos terres, deux petits musiciens à mine intelligente. Et le faux fuyant de leur promettre Dredd et les délices de la cour n'était pas mal trouvé pour commencer. Mais vous n'eussiez pas seulement aperçu Dredd, mes enfants, et bon gré mal gré, vous eussiez été incorporés dans la musique de quelque régiment d'infanterie seulement pour le reste de vos jours.
Je sais à quoi m'en tenir maintenant sur le sort qui nous attendait, répondit Consuelo. J'ai entendu parler des abominations de ce régime militaire, de la mauvaise foi et de la cruauté des enlèvements de recrues. Je vois, à la manière dont le pauvre grenadier était traité par ces misérables, qu'on ne m'avait rien exagéré. Oh, le grand Frédéric !«
Sachez, jeune homme, dit le baron avec une emphase un peu ironique, que sa majesté ignore les moyens et ne connaît que les résultats. »
Dont elle profite, sans se soucier du reste, reprit Consuelo, animé par une indignation irrésistible.
Oh, je le sais, monsieur le baron, les rois n'ont jamais tort, et sont innocents de tout le mal qu'on fait pour leur plaire.
Le drôle a de l'esprit, s'écria le comte en riant. Mais soyez prudent, mon joli petit tambour, et n'oubliez pas que vous parlez devant un officier supérieur du régiment où vous deviez peut-être entrer.
Sachant me taire, monsieur le comte, je ne révoque jamais en doute la discrétion d'autrui.
Vous l'entendez, baron? Il vous promet le silence que vous n'aviez pas songé à lui demander. Allons, c'est un enfant charmant.
Et je me fie à lui, de tout mon cœur, repartit le baron.
Comte, vous devriez l'enrôler, vous, et l'offrir comme page à son Altesse.
C'est fait, s'il y consent, dit le comte en riant.
Voulez-vous accepter cet engagement? Beaucoup plus doux que celui du service prussien.
Ah, mon enfant! Il ne s'agira ni de souffler dans des chaudrons, ni de battre le rappel avant le jour, ni de recevoir la schlag et de manger du pain de briques pilé, mais de porter la queue et l'éventail d'une dame, admirablement belle et gracieuse, d'habiter un palais de fées, de présider aux jeux et aux riz, et de faire votre partie dans des concerts qui valent bien ceux du grand Frédéric. Êtes-vous tenté? Ne me prenez-vous pas pour un mailleur?
Et quelle est donc cette Altesse si gracieuse et si magnifique? Demanda Consuelo en souriant.
C'est la margrave douairière de Bareit, princesse de Kulmak, mon illustre épouse, répondit le comte Auditz. C'est maintenant la châtelaine de Roswald en Moravie.
Consuelo avait 100 fois entendu raconter à la chanoinesse Wenceslawa de Rudolstaff la généalogie, les alliances et l'histoire anecdotique de toutes les principautés et aristocraties, grandes et petites, de l'Allemagne et des pays circonvoisins. Plusieurs de ces biographies l'avaient frappé, et entre autres celle du comte Auditz Roswald, seigneur morave très riche, chassé et abandonné par un père irrité de ses déportements, aventurier très répandu dans toutes les cours de l'Europe. Enfin, grand écuyer et amant de la margrave douairière de Bareit, qu'il avait épousée en secret, enlevée et conduite à Vienne, de là en Moravie, où, ayant hérité de son père, il l'avait mise récemment à la tête d'une brillante fortune. La chanoinesse était revenue souvent sur cette histoire, qu'elle trouvait fort scandaleuse, parce que la margrave était princesse suzeraine, et le comte simple gentilhomme. Et c'était pour elle un sujet de se déchaîner contre les mésalliances et les mariages d'amour. De son côté, Consuelo, qui cherchait à comprendre et à bien connaître les préjugés de la caste nobiliaire, faisait son profit de ces révélations et ne les oubliait pas. La première fois que le comte Auditz s'était nommé devant elle, elle avait été frappée d'une vague réminiscence, et maintenant elle avait présente toutes les circonstances de la vie et du mariage romanesque de cet aventurier célèbre. Quant au baron de Trinck, qui n'était alors qu'au début de sa mémorable disgrâce et qui ne présageait guère son épouvantable avenir, elle n'en avait jamais entendu parler. Elle écouta donc le comte étaler avec un peu de vanité le tableau de sa nouvelle opulence. Raillée et méprisée dans les petites cours orgueilleuses de l'Allemagne, Auditz avait longtemps rougi d'être regardée comme un pauvre diable enrichi par sa femme. Héritier de biens immenses, il se croyait désormais réhabilité en étalant le faste d'un roi dans son comté morave, et produisait avec complaisance ses nouveaux titres à la considération ou à l'envie de minces souverains beaucoup moins riches que lui. Rempli de bons procédés et d'attentions délicates pour sa margrave, il ne se piquait pourtant pas d'une scrupuleuse fidélité envers une femme beaucoup plus âgée que lui. Et soit que cette princesse eût, pour fermer les yeux, les bons principes et le bon goût du temps, soit qu'elle crût que l'époux illustré par elle ne pouvait jamais ouvrir les yeux sur le déclin de sa beauté, elle ne le gênait point dans ses fantaisies. Au bout de quelques lieues, on trouva un relais préparé exprès à l'avance pour les nobles voyageurs. Consuelo et Joseph voulurent descendre et prendre congé d'eux, mais ils s'y opposèrent, prétextant la possibilité de nouvelles entreprises de la part des recruteurs répandus dans le pays. « Vous ne savez pas, » leur dit Trunk, et ils n'exagéraient rien, « combien cette race est habile et redoutable. En quelque lieu de l'Europe civilisée que vous mettiez le pied, si vous êtes pauvre et sans défense, si vous avez quelque vigueur ou quelque talent, vous êtes exposé à la fourberie ou à la violence de ces gens-là. Ils connaissent tous les passages de frontières, tous les sentiers de montagne, toutes les routes de traverse, tous les gîtes équivoques, tous les coquins dont ils peuvent espérer assistance et main forte au besoin. Ils parlent toutes les langues, tous les patois, car ils ont vu toutes les nations et fait tous les métiers. Ils excellent à manier un cheval, à courir, nager, sauter par-dessus les précipices comme de vrais bandits. Ils sont presque tous braves, durs à la fatigue, menteurs, adroits et impudents, vindicatifs, souples et cruels. C'est le rebut de l'espèce humaine, dont l'organisation militaire du feu roi de Prusse, Gros Guillaume, a fait les pourvoyeurs les plus utiles de sa puissance et les soutiens les plus importants de sa discipline. Il rattraperait un déserteur au fond de la Sibérie et irait le chercher au milieu des balles de l'armée ennemie, pour le seul plaisir de le ramener en Prusse et de l'y faire pendre pour l'exemple. Ils ont arraché de l'autel un prêtre qui disait sa messe, parce qu'il avait 5 pieds 10 pouces. Ils ont volé un médecin à la princesse électorale. Ils ont mis en fureur 10 fois le vieux margrave de Bareit, en lui enlevant son armée composée de 20 ou 30 hommes, sans qu'il ait osé en demander raison ouvertement. Ils ont fait soldat à perpétuité un gentilhomme français qui allait voir sa femme et ses enfants aux environs de Strasbourg. Ils ont pris des Russes à la tsarine Élisabeth, des Uhlans au maréchal de Saxe, des Pandours à Marie-Thérèse, des Magnats de Hongrie, des seigneurs polonais, des chanteurs italiens et des femmes de toutes les nations, nouvelle Sabine mariée de force à des soldats.
tout leur est bon.
Outre leurs appointements et leurs frais de voyage, qui sont largement rétribués, ils ont une prime de temps par tête,
que dis-je, de temps par pouce et par ligne de stature.
Oui, dit Consuelo, ils fournissent de la chair humaine à temps par once.
Ah, votre grand roi est un ogre.
Mais soyez tranquille, monsieur le baron, dites toujours, vous avez fait une belle action en rendant la liberté à notre pauvre déserteur. J'aimerais mieux subir les supplices qui lui étaient destinés que de dire une parole qui pût vous nuire.
Trinck, dont le fougueux caractère ne comportait pas la prudence et qui était déjà aigri par les rigueurs et les injustices incompréhensibles de Frédéric à son égard, trouvait un amer plaisir à dévoiler devant le comte Auditz les forfaits de ce régime dont il avait été témoin et complice, dans un temps de prospérité où ses réflexions n'avaient pas toujours été aussi équitables et aussi sévères. Maintenant, persécuté secrètement, quoique en apparence il dût à la confiance du roi de remplir une mission diplomatique importante auprès de Marie-Thérèse, il commençait à détester son maître et à laisser paraître ses sentiments avec trop d'abandon. Il rapporta au comte les souffrances, l'esclavage et le désespoir de cette nombreuse milice prussienne, précieuse à la guerre, mais si dangereuse durant la paix, qu'on en était venu, pour la réduire, à un système de terreur et de barbarie sans exemple. Il raconta l'épidémie de suicide qui s'était répandue dans l'armée, et les crimes que commettaient des soldats, honnêtes et dévots d'ailleurs, dans le seul but de se faire condamner à mort pour échapper à l'horreur de la vie qu'on leur avait faite.
« Croiriez-vous, dit-il, que les rangs surveillés sont ceux qu'on recherche avec le plus d'ardeur?
Il faut que vous sachiez que ces rangs surveillés sont composés de recrues étrangères, d'hommes enlevés ou de jeunes gens de la nation prussienne, lesquels, au début d'une carrière militaire qui ne doit finir qu'avec la vie, sont généralement en proie durant les premières années aux plus horribles découragements. On les divise par rangs et on les fait marcher, soit en paix, soit en guerre, devant une rangée d'hommes plus soumis ou plus déterminés, qui ont la consigne de tirer chacun sur celui qui marche devant lui, si ce dernier montre la plus légère intention de fuir ou de résister. Si le rang chargé de cette exécution la néglige, le rang placé derrière, qui est encore choisi parmi de plus insensibles et de plus farouches, car il y en a parmi les vieux soldats endurcis et les volontaires, qui sont presque tous des scélérats. Ce troisième rang, dis-je, est chargé de tirer sur les deux premiers, et ainsi de suite, si le troisième rang faiblit dans l'exécution. Ainsi, chaque rang de l'armée a, dans la bataille, l'ennemi en face et l'ennemi sur ses talons. Nulle part des semblables, des compagnons ou des frères d'armes. Partout la violence, la mort et l'épouvante. C'est avec cela, dit le grand Frédéric, qu'on forme des soldats invincibles. Eh bien, une place dans ces premiers rangs est enviée et recherchée par le jeune militaire prussien. Et sitôt qu'il y est placé, sans concevoir la moindre espérance de salut, il se débande et jette ses armes, afin d'attirer sur lui les balles de ses camarades. Ce mouvement de désespoir en sauve plusieurs, qui, risquant le tout pour le tout et bravant les plus insurmontables dangers, parviennent à s'échapper, et souvent passent à l'ennemi. Le roi ne s'abuse pas sur l'horreur que son joug de fer inspire à l'armée. Et vous savez peut-être son mot au duc de Brunswick, son neveu, qui assistait à une de ses grandes revues et ne se lassait pas d'admirer la belle tenue et les superbes manœuvres de ses troupes. « La Réunion et l'ensemble de tant de beaux hommes vous surprend, » lui dit Frédéric. « Et moi, il y a quelque chose qui m'étonne bien davantage. »
« Quoi donc ? » dit le jeune duc.
« C'est que nous soyons en sûreté, vous et moi, au milieu d'eux, » répondit le roi.
« Baron, cher baron, » reprit le comte Auditz, « ceci est le revers de la médaille. Rien ne se fait miraculeusement chez les hommes. Comment Frédéric serait-il le plus grand capitaine de son temps s'il avait la douceur des colombes ?
Tenez, n'en parlez pas davantage. Vous m'obligeriez à prendre son parti, moi son ennemi naturel, contre vous, son aide de camp et son favori. À la manière dont il traite ses favoris dans un jour de caprice, on peut juger, répondit Trinque, de sa façon d'agir avec ses esclaves. Ne parlons plus de lui, vous avez raison, car en y songeant, il me prend une envie diabolique de retourner dans le bois et d'étrangler de mes mains ces zélés pourvoyeurs de chair humaine, à qui j'ai fait grâce par une sotte et lâche prudence. » L'emportement généreux du baron plaisait à Consuelo. Elle écoutait avec intérêt ces peintures animées de la vie militaire en Prusse, et ne sachant pas qu'il entrait dans cette courageuse indignation un peu de dépit personnel, elle y voyait l'indice d'un grand caractère. Il y avait de la grandeur réelle néanmoins dans l'âme de Trinque. Ce beau et fier jeune homme n'était pas né pour ramper. Il y avait bien de la différence à cet égard entre lui et son ami improvisé en voyage, le riche et superbe Auditz. Ce dernier, ayant fait dans son enfance la terreur et le désespoir de ses précepteurs, avait été enfin abandonné à lui-même. Et quoiqu'il eût passé l'âge des bruyantes incartades, il conservait dans ses manières et dans ses propos quelque chose de puéril qui contrastait avec sa stature herculéenne et son beau visage un peu flétri par 40 années pleines de fatigues et de débauches. Il n'avait puisé l'instruction superficielle qu'il étalait de temps en temps que dans les romans, la philosophie à la mode et la fréquentation du théâtre. Il se piquait d'être artiste et manquait de discernement et de profondeur en cela comme en tout. Pourtant, son grand air, son affabilité exquise, ses idées fines et riantes agirent bientôt sur l'imagination du jeune Hyde, qui le préféra au baron, peut-être aussi à cause de l'attention plus prononcée que Consuelo accordait à ce dernier. Le baron, au contraire, avait fait de bonnes études. Et si le prestige des cours et l'effervescence de la jeunesse l'avaient souvent étourdi sur la réalité et la valeur des grandeurs humaines, il avait conservé au fond de l'âme cette indépendance de sentiment et cette équité de principe que donnent les lectures sérieuses et les nobles instincts développés par l'éducation. Son caractère altier avait pu s'engourdir sous les caresses et les flatteries de la puissance, mais il n'avait pu plier assez pour qu'à la moindre atteinte de l'injustice, il ne se relevât fougueux et brûlant. Le beau page de Frédéric avait trempé ses lèvres à la coupe empoisonnée. Mais l'amour, un amour absolu, téméraire, exalté, était venu ranimer son audace et sa persévérance. Frappé dans l'endroit le plus sensible de son cœur, il avait relevé la tête et bravait en face le tyran qui voulait le mettre à genoux. À l'époque de notre récit, il paraissait âgé d'une 20aine d'années tout au plus. Une forêt de cheveux bruns, dont il ne voulait pas faire le sacrifice à la discipline puérile de Frédéric, ombrageait son large front. Sa taille était superbe, ses yeux étincelants, sa moustache noire comme l'ébène, sa main blanche comme l'albâtre, quoique forte comme celle d'un athlète, et sa voix fraîche et mâle comme son visage, ses idées et les espérances de son amour. Consuelo songeait à cet amour mystérieux qu'il avait à chaque instant sur les lèvres, et qu'elle ne trouvait plus ridicule à mesure qu'elle observait, dans ses élans et ses réticences, le mélange d'impétuosité naturelle et de méfiance trop fondée qui le mettait en guerre continuelle avec lui-même et avec sa destinée. Elle éprouvait, en dépit d'elle-même, une vive curiosité de connaître la dame des pensées d'un si beau jeune homme, et se surprenait à faire des vœux sincères et romanesques pour le triomphe de ses deux amants. Elle ne trouva point la journée longue, comme elle s'y était attendue dans un gênant face à face avec deux inconnus d'un rang si différent du sien. Elle avait pris à Venise la notion et à Risenburg l'habitude de la politesse, des manières douces et des propos choisis qui sont le beau côté de ce qu'on appelait exclusivement dans ce temps-là la bonne compagnie. Tout en se tenant sur la réserve et ne parlant pas, à moins d'être interpellée,
Elle se sentit donc fort à l'aise et fit ses réflexions intérieurement sur tout ce qu'elle entendit. Ni le baron ni le comte ne parurent s'apercevoir de son déguisement. Le premier ne faisait guère attention ni à elle ni à Joseph. S'il leur adressait quelques mots, il continuait son propos en se retournant vers le comte. Et bientôt, tout en parlant avec entraînement, il ne pensait plus même à celui-ci et semblait converser avec ses propres pensées, comme un esprit qui se nourrit de son propre feu. Quant au comte, il était tour à tour, grave comme un monarque et sémillant comme une marquise française. Il tirait des tablettes de sa poche et prenait des notes avec le sérieux d'un penseur ou d'un diplomate. Puis il les relisait en chantonnant, et Consuelo voyait que c'était de petits versiculés dans un français galant et doucereux. Il les récitait parfois au baron, qui les déclarait admirables sans les avoir écoutés. Quelquefois il consultait Consuelo d'un air débonnaire et lui demandait avec une fausse modestie « Comment trouvez-vous cela, mon petit ami? Vous comprenez le français, n'est-ce pas ?» Consuelo, impatienté de cette feinte condescendance qui paraissait chercher à l'éblouir, ne put résister à l'envie de relever deux ou trois fautes qui se trouvaient dans un quatrain à la beauté. Sa mère lui avait appris à bien phraser et à bien énoncer les langues qu'elle-même chantait facilement et avec une certaine élégance. Consuelo, studieuse et cherchant dans tout l'harmonie, la mesure et la netteté que lui suggérait son organisation musicale, avait trouvé dans les livres la clé et la règle de ces langues diverses. Elle avait surtout examiné avec soin la prosodie, en s'exerçant à traduire des poésies lyriques et en ajustant des paroles étrangères sur des airs nationaux, pour se rendre compte du rythme et de l'accent. Elle était ainsi parvenue à bien connaître les règles de la versification dans plusieurs langues, et il ne lui fut pas difficile de relever les erreurs du poète morave. Émerveillée de son savoir, mais ne pouvant se résoudre à douter du sien propre, Auditz consulta le baron, qui se porta compétent pour donner gain de cause au petit musicien. De ce moment, le comte s'occupa d'elle exclusivement, mais sans paraître se douter de son âge véritable ni de son sexe. Il lui demanda seulement où il avait été élevé pour savoir si bien les lois du Parnasse. « À l'école gratuite des maîtrises de chant de Venise, » répondit-elle laconiquement. « Il paraît que les études de ce pays-là sont plus fortes que celles de l'Allemagne. Et votre camarade, où a-t-il étudié ?»«
À la cathédrale de Vienne, » répondit Joseph.
« Mes enfants, reprit le comte, je crois que vous avez tous deux beaucoup d'intelligence et d'aptitude. À notre premier gîte, je veux vous examiner sur la musique. Et si vous tenez ce que vos figures et vos manières promettent, je vous engage pour mon orchestre ou mon théâtre de Roswald. Je veux tout de bon vous présenter à la princesse mon épouse. Qu'en diriez-vous, hein? Ce serait une fortune pour des enfants comme vous. »
Consuelo avait été prise d'une forte envie de rire en entendant le comte se proposer d'examiner Haydn et elle-même sur la musique. Elle ne put que s'incliner respectueusement avec de grands efforts pour garder son sérieux. Joseph, sentant davantage les conséquences avantageuses pour lui d'une nouvelle protection, remercia et ne refusa pas. Le comte reprit ses tablettes et lut à Consuelo la moitié d'un petit opéra italien singulièrement détestable et plein de barbarisme, qu'il se promettait de mettre lui-même en musique et de faire représenter pour la fête de sa femme, par ses acteurs, sur son théâtre, dans son château. Ou pour mieux dire, dans sa résidence, car se croyant prince par le fait de sa margrave, il ne parlait pas autrement. Consuelo poussait de temps en temps le coude de Joseph pour lui faire remarquer les bévues du comte, et, succombant sous l'ennui, se disait en elle-même que pour s'être laissé séduire par de tels madrigaux, la fameuse beauté du margravia héréditaire de Bareit, apanage de Kumlbach, devait être une personne bien éventée, malgré ses titres, ses galanteries et ses années. Tout en lisant et en déclamant,
le comte croquait des bonbons pour sumecter le gosier, et en offrait sans cesse au jeune voyageur, qui, n'ayant rien mangé depuis la veille et mourant de faim, acceptait, faute de mieux, cet aliment plus propre à la tromper qu'à la satisfaire, tout en se disant que les dragées et les rimes du comte étaient une bien fade nourriture. Enfin, vers le soir, on vit paraître à l'horizon les forts et les flèches de cette ville de Passau, où Consuelo avait pensé le matin ne pouvoir jamais arriver. Cet aspect, après tant de dangers et de terreurs, lui fut presque aussi doux que l'eût été en d'autres temps celui de Venise. Et lorsqu'elle traversa le Danube, elle ne put se retenir de donner une poignée de main à Joseph. « Est-il votre frère ?» lui demanda le comte, qui n'avait pas encore songé à lui faire cette question. « Oui, monseigneur, » répondit au hasard Consuelo pour se débarrasser de sa curiosité. « Vous ne vous ressemblez pourtant pas, » dit le comte. « Il y a tant d'enfants qui ne ressemblent pas à leur père, » répondit gaiement Joseph. « Vous n'avez pas été élevés ensemble ?»« Non, monseigneur, dans notre condition errante, on est élevé où l'on peut et comme l'on peut. »« Je ne sais pourquoi, je m'imagine pourtant, » dit le comte à Consuelo en baissant la voix, « que vous êtes bien né. » Tout dans votre personne et votre langage annonce une distinction naturelle. « Je ne sais pas du tout comment je suis née, monseigneur, » répondit-elle en riant. « Je dois être née musicien de père en fils, car je n'aime au monde que la musique. « Pourquoi êtes-vous habillé en paysan de Moravie ?»« Parce que, mes habits s'étant usés en voyage, j'ai acheté dans une foire de ce pays-là ce que vous voyez. » « Vous avez donc été en Moravie, à Roswald, peut-être ?»« Aux environs, oui, monseigneur, » répondit Consuelo avec malice. « J'ai aperçu de loin, et sans oser m'en approcher, votre superbe domaine, vos statues, vos cascades, vos jardins, vos montagnes, que sais-je, des merveilles, un palais de fées. »« Vous avez vu tout cela ?» s'écria le comte émerveillé de ne l'avoir pas su plus tôt, et ne s'apercevant pas que Consuelo, lui ayant entendu décrire pendant 2 heures les délices de sa résidence, pouvait bien en faire la description après lui, en sûreté de conscience. « Oh, cela doit vous donner envie d'y revenir, » dit-il. « J'en grille d'envie à présent que j'ai le bonheur de vous connaître, » répondit Consuelo, qui avait besoin de se venger de la lecture de son opéra en se moquant de lui. Elle sauta légèrement de la barque sur laquelle on avait traversé le fleuve en s'écriant avec un accent germanique renforcé. « Oh, Passau, je te salue !» La berline les conduisit à la demeure d'un riche seigneur, ami du comte, absent pour le moment, mais dont la maison leur était destinée pour pied-à-terre. On les attendait, les serviteurs étaient en mouvement pour le souper qui leur fut servi promptement. Le comte, qui prenait un plaisir extrême à la conversation de son petit musicien, c'est ainsi qu'il appelait Consuelo, eût souhaité l'emmener à sa table. Mais la crainte de faire une inconvenance qui déplut au baron l'en empêcha. Consuelo et Joseph se trouvèrent fort contents de manger à l'office et ne firent nulle difficulté de s'asseoir avec les valets. Hyde n'avait encore jamais été traité plus honorablement chez les grands seigneurs qu'il avait admis à leur fête. Et, quoique le sentiment de l'art lui eût assez élevé le cœur pour qu'il comprît l'outrage attaché à cette manière d'agir, il se rappelait, sans fausse honte, que sa mère avait été cuisinière du comte Arrac, seigneur de son village. Plus tard, et parvenu au développement de son génie, Hyde ne devait pas être mieux apprécié comme homme par ses protecteurs, quoiqu'il le fût de toute l'Europe comme artiste. Il a passé 25 ans au service du prince Esterhazy, et quand nous disons au service, nous ne voulons pas dire que ce fut comme musicien seulement. Père l'a vu, une serviette au bras et l'épée au côté, se tenir derrière la chaise de son maître et remplir les fonctions de maître d'hôtel, c'est-à-dire de premier valet, selon l'usage du temps et du pays. Consuelo n'avait point mangé avec les domestiques depuis les voyages de son enfance avec sa mère, la Zingara. Elle s'amusa beaucoup des grands airs de ses laquais de bonne maison, qui se trouvaient humiliés de la compagnie de deux petits bateleurs, et qui, tout en les plaçant à part à une extrémité de la table, leur servirent les plus mauvais morceaux. L'appétit et leur sobriété naturelle les leur firent trouver excellents. Et leur air enjoué ayant désarmé ces âmes hautaines, on les pria de faire de la musique pour égayer le dessert de messieurs les laquais. Joseph se vengea de leur dédain en leur jouant du violon avec beaucoup d'obligeance. Et Consuelo elle-même, ne se ressentant presque plus de l'agitation et des souffrances de la matinée, commençait à chanter lorsqu'on vint leur dire que le comte et le baron réclamaient la musique pour leur propre divertissement. Il n'y avait pas moyen de refuser. Après le secours que ces deux seigneurs leur avaient donné, Consuelo eut regardé toute défaite comme une ingratitude. Et d'ailleurs, s'excuser sur la fatigue et l'enrouement eût été un méchant prétexte, puisque ses accents, montant de l'office au salon, venaient de frapper les oreilles des maîtres. Elle suivit Joseph, qui était, aussi bien qu'elle, en train de prendre en bonne part toutes les conséquences de leur pèlerinage. Et quand ils furent entrés dans une belle salle, où à la lueur de 20 bougies, les deux seigneurs achevaient, les coudes sur la table, leur dernier flacon de vin de Hongrie, ils se tinrent debout près de la porte, à la manière des musiciens de bas étage, et se mirent à chanter les petits duos italiens qu'ils avaient étudiés ensemble sur les montagnes. « Attention !» dit malicieusement Consuelo à Joseph avant de commencer. « Songe que monsieur le comte va nous examiner sur la musique. Tâchons de nous en bien tirer. » Le comte fut très flatté de cette réflexion. Le baron avait placé sur son assiette retournée le portrait de sa dulcinée mystérieuse et ne semblait pas disposé à écouter. Consuelo n'eut garde de donner sa voix et ses moyens. Son prétendu sexe ne comportait pas des accents si veloutés, et l'âge qu'elle paraissait avoir sous son déguisement ne permettait pas de croire qu'elle eût pu parvenir à un talent consommé. Elle se fit une voix d'enfant un peu rauque, et comme usée prématurément par l'abus du métier en plein vent. Ce fut pour elle un amusement que de contrefaire aussi les maladresses naïves et les témérités d'ornement écourtées qu'elle avait entendu faire tant de fois aux enfants des rues de Venise. Mais quoiqu'elle jouât merveilleusement cette parodie musicale, il y eut tant de goût naturel dans ses facéties, le duo fut chanté avec tant de nerfs et d'ensemble, et ce chant populaire était si frais et si original, que le baron, excellent musicien et admirablement organisé pour les arts, remit son portrait dans son sein, releva la tête, s'agita sur son siège et finit par battre des mains avec vivacité, s'écriant que c'était la musique la plus vraie et la mieux sentie qu'il eût jamais entendue. Quant au comte Auditz, qui était plein de Fuchs, de Rameau et de ses auteurs classiques, et il goûta moins ce genre de composition et cette manière de les rendre. Il trouva que le baron était un barbare du Nord, et ses deux protégés, des écoliers assez intelligents, mais qu'il serait forcé de tirer par ses leçons de la crasse de l'ignorance. Sa manie était de former lui-même ses artistes, et il dit d'un ton sentencieux en secouant la tête, « Il y a du bon, mais il y aura beaucoup à reprendre. Allons, allons, nous corrigerons tout cela. » Il se figurait que Joseph et Consuelo lui appartenaient déjà et faisaient partie de sa chapelle. Il pria ensuite Hyde de jouer du violon. Et comme celui-ci n'avait aucun sujet de cacher son talent, il dit à merveille un air de sa composition qui était remarquablement bien écrit pour l'instrument. Le comte fut cette fois très satisfait. « Toi, dit-il, ta place est trouvée. Tu seras mon premier violon. Tu feras parfaitement mon affaire. Mais tu t'exerceras aussi sur la viole d'amour. J'aime par-dessus tout la viole d'amour. Je t'enseignerai comment on en tire parti. » « Monsieur le baron est-il content aussi de mon camarade ? » dit Consuelo à Trinque, qui était redevenu pensif. « Si content, répondit-il,
que si je fais quelque séjour à Vienne, je ne veux pas d'autre maître que lui. »
Je vous enseignerai la viole d'amour, reprit le comte, et je vous demande la préférence.
J'aime mieux le violon et ce professeur-là, repartit le baron, qui, dans ses préoccupations, avait une franchise incomparable. Il prit le violon et joua de mémoire, avec beaucoup de pureté et d'expression, quelques passages du morceau que Joseph venait de dire. Puis, le lui rendant,
« Je voulais vous faire voir, lui dit-il avec une modestie très réelle, que je ne suis bon qu'à devenir votre écolier, mais que je puis apprendre avec attention et docilité. »
Consuelo le pria de jouer autre chose, et il le fit sans affectation. Il avait du talent, du goût et de l'intelligence.
Odile donna des éloges exagérés à la composition du morceau.
« Elle n'est pas très bonne, répondit Trinque, car elle est de moi. Je l'aime pourtant, parce qu'elle a plu à ma princesse. »
Le comte fit une grimace terrible pour l'avertir de peser ses paroles.
Trinque n'y prit pas seulement garde, et, perdu dans ses pensées, il fit courir l'archer sur les cordes pendant quelques instants. Puis, jetant le violon sur la table, il se leva et marcha à grands pas en passant sa main sur son front. Enfin, il revint vers le comte et lui dit
« Je vous souhaite le bonsoir, mon cher comte. Je suis forcé de partir avant le jour, car la voiture que j'ai fait demander doit me prendre ici à 3 heures du matin. Puisque vous y passez toute la journée, je ne vous reverrai probablement qu'à Vienne. Je serai heureux de vous y retrouver et de vous remercier encore de l'agréable bout de chemin que vous m'avez fait faire en votre compagnie. C'est de cœur que je vous suis dévoué pour la vie. »
Ils se serrèrent la main à plusieurs reprises. Et, au moment de quitter l'appartement, le baron, s'approchant de Joseph, lui remit quelques pièces d'or en lui disant « C'est un acompte sur les leçons que je vous demanderai à Vienne. Vous me trouverez à l'ambassade de Prusse. »
Il fit un petit signe de tête à Consuelo en lui disant « Toi, si jamais je te retrouve tambour ou trompette dans mon régiment, nous déserterons ensemble, entends-tu ?»
Et il sortit après avoir encore salué le comte.